C'est avec le même plaisir de vous informer que je vous retrouve pour cette édition de 17h. Nous sommes mercredi 7 juin 2021. Bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Rukayat Abdrahman. Début ce matin à Niamey d'un forum sur la contribution du volontariat dans le développement durable au Niger. Nous y reviendrons en détail dans un instant avec le responsable des jeunes volontaires pour l'environnement. Environ 150 ménages déplacés à Baleyara de la région de Tillabéri ont reçu des kits alimentaires et non alimentaires de 3 mois distribués par le Comité international de la Croix-Rouge au Niger, des précisions dans un instant. Dans la lutte contre le terrorisme au Niger, les communes jouent un rôle important, a affirmé Olivier de Sardane, chercheur au LACDEL, les détails dans la partie magazine de cette édition. Pour rendre effective l'opérationnalisation de la Commission climat pour le Sahel, le comité des chefs d'État et de gouvernement africains pour les changements climatiques s'est réuni hier en visioconférence. À cette occasion, selon le quotidien nigérien Le Sahel, le président du Niger, Mohamed Bazoum, aussi président de la Commission climat pour le Sahel, a partagé les actions entreprises par la dite commission et le Niger. Il a annoncé aussi que les ressources sont en cours de mobilisation et demande l'appui des pays membres et des partenaires pour parachever son opérationnalisation. À Niamey s'est ouvert ce matin un forum sur la contribution du volontariat dans le développement durable. Une trentaine de structures de volontaires prennent part à cette rencontre. Sane Ayouba, responsable de l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement, explique l'apport du volontariat au Niger. Il est au micro d'Asmana China.
Plusieurs structures de volontariat apportent quotidiennement leur contribution auprès des communautés. Donc pour nous, c'est à juste titre un forum de plaidoyer pour que cet apport des volontaires ou du volontariat soit capitalisé, soit reflété. Par exemple, moi, je suis des jeunes volontaires pour l'environnement. Aujourd'hui, il y a au moins l'ODD 12 sur la production et la consommation durable, l'ODD 13 sur le changement climatique. C'est des ODD sur lesquels nos activités contribuent quand même à atteindre des résultats. Dans les domaines de la santé, par exemple, où on a beaucoup de relais communautaires qui sont des volontaires, des bénévoles. On a vu l'intervention de l'agence nigérienne sur le volontariat qui a aisément expliqué que sur les 120 volontaires qu'ils ont déployés sur l'ensemble du territoire national, la plupart interviennent dans le domaine de la santé.
Les effets du changement climatique observés dans le Sahel ont un impact négatif sur la vie des femmes pasteurs, a indiqué Sani Ayouba, le coordinateur de l'association Jeunes Volontaires JVE du Niger. Il ajoute que les ressources naturelles exploitées par ces femmes sont également menacés, des propos recueillis par Tardan Foudé Ahmed.
Avec la crise climatique que nous observons, surtout dans la bande sahélienne, quand on regarde les crises que nous avons vécues ces derniers temps, que ce soit les catastrophes, que ce soit les sécheresses et autres invasions acridiennes, ou même les maladies climato-sensibles, qui deviennent de plus en plus récurrentes et avec un intervalle assez régulier. Donc c'est normal que cela ait un impact sur les pasteurs de manière globale, qui ne dépendent que de la nature et qui vivent des ressources naturelles que nous avons dans la forêt ou dans la brousse, mais qui aujourd'hui se voient en tout cas un peu menacées par l'ensemble de ces catastrophes que nous vivons. Et surtout quand on prend les cas particuliers des femmes et des jeunes filles, elles sont les plus exposées parce qu'en milieu rural ou en milieu nomade, c'est les femmes qui font la plupart des activités ménagères. Elles prennent soin du troupeau et autres, mais quand même, la plupart des activités qui nécessitent un contact direct avec la nature, c'est les femmes qui sont à l'avant-garde.
La situation sécuritaire qui prévaut dans le nord Tillabéri a contraint les éleveurs de cette région à se rabattre sur les abords du fleuve Niger pour leur survie et celle de leurs animaux. Comment concilier leur cohabitation avec les riverains producteurs agricoles? Réponse avec le directeur régional adjoint de l'élevage, Dr Boubacar Mahamman, joint au téléphone par Moussa Hassan.
Il y a des couloirs pour que les animaux puissent emprunter. Nous faisons en sorte que vraiment les propriétaires des champs ne puissent pas les semer pour faciliter l'accès des animaux au fleuve pour leur abreuvement et permettre aussi leur remontée vers les aires de pâturage ou les enclaves qui existent. Puisque au niveau des champs, il y a des enclaves ou des aires de pâturage qui ne sont pas semées et il y a aussi quelques jachères que les animaux puissent utiliser. Donc, en attendant la dernière décade de juin ou la première décade de juillet, on puisse interdire la circulation des animaux dans les champs. Mais, bien sûr, avec la possibilité aux animaux de remonter un peu vers le nord lorsque les semis sont bien installés, en attendant, ils puissent revenir exploiter les résidus de culture, quoi.
Restons toujours à Tillabéri où environ 150 ménages, tous des déplacés de Bani Bangou à Balayara, ont reçu des dons en vivres et en kits non alimentaires. Un appui du Comité international de la Croix-Rouge CICR pour couvrir leurs besoins de 3 mois. Issouf Hamme, président du sous-comité de la Croix-Rouge de Balayara, explique au micro de Hassan Moumouni.
Nous sommes ici pour la répartition de l'aide alimentaire apportée par le CICR aux déplacés de Bani Bangou réfugiés à Balayara. Ils sont au total 149 ménages enregistrés. Et chaque ménage aura 3 sacs de farine CSB, soit 75 kg, 3 sacs de riz, 3 sacs de haricots, 1 carton d'huile, soit 6 bidons de 5 litres, 3 sacs de 1200 kg chacun, une bâche et un kit de cuisine. L'appel que nous lançons à l'endroit de ces ménages est de prendre conscience que ce don est un appui à l'amélioration de leurs conditions de vie. Aussi, ne doit pas les gaspiller ni les vendre. C'est une provision pour 3 mois qui peut suffire à n'importe quel ménage. Et si la gestion est bonne, cette provision peut leur permettre de vivre aisément jusqu'à la récolte.
Érigés en collectif, les 1200 agents de santé recrutés par l'État du Niger en 2020 dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 dénoncent leurs conditions de vie et de travail. Selon le porte-parole de la structure d'Agadez, ils cumulent 10 mois d'arriérés de salaire depuis leur recrutement, explique Ilias Jijimon Mansani, porte-parole des agents au micro de Tila Amadou.
Après le recrutement, on a été affecté sur toute l'étendue du territoire national. Les camarades ont pris service et depuis là, on attend. Jusque-là, malheureusement, aucun camarade n'a perçu aucun rond de la part du gouvernement. Notre prise de service date de septembre 2020. Donc si on fait le compte aujourd'hui, ça fait 10 mois que tous ces 1200 agents, on est sur le terrain, on vit dans une précarité, vraiment une misère qui ne dit pas son nom. On a à lancer des actions, des mouvements, amener le gouvernement à nous faire entrer dans nos droits. Donc parmi ces actions-là, il y a la pétition que nous avions adressée au ministre de tutelle, le ministre de la Santé, et on a mis le cabinet du président de la République en copie, celui du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée. Si rien n'est fait, on va aller jusqu'à organiser des sittings. Les documents sont en train d'être écrits. Inch'Allah, ils vont incessamment sortir.
L'arrivée des premières menstruations chez certaines jeunes filles s'avère une expérience traumatisante. Fatima Ibrahim, élève en classe de terminale, raconte son expérience à notre correspondante à Agadez, Tila Amadou.
J'ai commencé avoir mes règles en classe de 4e. Déjà, je savais tout concernant les règles. Notre prof DF nous a tout expliqué. L'hygiène, comment se comporter quand on a nos règles. Certes, j'ai eu un peu peur parce qu'on était en composition. J'étais en classe, j'ai senti juste des douleurs au bas de mon ventre et j'ai dit quelque chose ne va pas. Et je suis partie aux toilettes et j'ai vu du sang qui coulait entre mes cuisses. Donc, j'ai eu un peu peur, mais j'ai déjà compris que c'est les règles. J'ai rentré à la maison. J'ai un peu fouillé dans les affaires de ma mère. J'ai eu le coton et je l'ai porté. Juste comme ça. Et j'ai un peu expliqué à ma grande sœur. Elle m'a dit, ah, c'est normal. C'est arrivé un peu tard même, mais on est toujours dans la norme.
Le Niger partage 7 frontières avec ses pays voisins, dont 50% seulement sont bornées, selon le secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières du Niger. Au niveau de Gaya, ville frontalière avec le Bénin, la frontière est en grande partie fluviale, explique Amadou Hassoumi. Il précise que le caractère fluvial de la frontière rend le bornage difficile. Il est au micro de Fadel Alou.
Notre frontière avec le Bénin est totalement fluviale. C'est une particularité. Et du fait que cette frontière est totalement fluviale, nous ne pouvons pas mettre les bornes dans le fleuve. Donc, raison pour laquelle nous étions obligés donc, de réaliser des cartes sur lesquelles nous avons porté la ligne frontière conformément à l'arrêt de la Cour internationale de justice. Et il fallait former les gens à la lecture et l'exploitation de ces cartes sur lesquelles sont portées la ligne frontière. C'est d'apprendre aux acteurs frontaliers à manier le récepteur GPS pour pouvoir identifier les points frontières, créer les conditions d'une coopération transfrontalière pour que, quand il y a un problème donné, qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir le résoudre.
C'est la la partie magazine de cette édition. De la lutte contre le terrorisme au Niger, les communes jouent un rôle important, estime Olivier de Sardane, chercheur au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local LASDEL. Selon lui, les communes concernées par l'insécurité nécessitent un appui du gouvernement pour trouver des solutions. Jean-Pierre Olivier de Sardane est interrogé par Tarnan Foudahmet.
Le problème se pose surtout aux campagnes éloignées, dans les zones d'élevage, et où l'État a été toujours peu présent. Et quand il était présent, c'était souvent sous une forme, disons, hostile parfois aux populations, qui était perçue par celles-ci comme étant un État qui leur prenait des taxes, qui était punitif, qui était répressif. Cet État-là, c'est qu'à la fois peu d'État et un mauvais État, en quelque sorte, est un problème majeur par rapport à l'avancée, disons, des djihadistes qui maintenant, dans certaines régions marginales du pays, pratiquent ce que j'appelle un gouvernement indirect, c'est-à-dire ils ne sont pas au premier plan. Il y a encore les chefs ou les maires officiellement, mais de fait, c'est eux qui, dans les villages, prélèvent le zakat, c'est eux qui font la justice, c'est eux qui arbitrent un certain nombre de conflits locaux. Vis-à-vis de ce gouvernement indirect des djihadistes, à mon avis, c'est au niveau de l'État local que se jouent les principaux enjeux. La reconstruction de l'État local, et l'État local, ce sont essentiellement les communes, ce sont les maires, et c'est avec eux, il me semble, que l'État central doit accepter de travailler, pas pour leur imposer, comme c'est souvent le cas, mais au contraire pour les écouter et les appuyer, disons, au cas par cas.
La plupart de nos communes n'ont pas les moyens. Selon vous, qu'est-ce que l'État doit faire?
L'État devrait effectivement soutenir beaucoup plus financièrement les communes. Parfois même, l'État ne paye pas ses dettes vis-à-vis des communes, nous le savons. Il devrait aussi amener ou obliger presque les bailleurs de fonds à beaucoup plus travailler avec les communes. Et il me semble qu'il faut au contraire renforcer beaucoup plus l'autorité des communes, de leur propre évaluation des contraintes, que désormais cette aide doit transiter, que ce soit l'aide extérieure ou l'aide de l'État.
Les civils qui se trouvent au niveau de ces communes-là se sentent un peu abandonnés par l'État. Ce qu'ils trouvent à leur niveau comme une forme d'injustice, et de l'autre côté, il y a des djihadistes. Pensez-vous que ces civils n'ont pas le choix que de se laisser faire?
Ils sont obligés de payer l'impôt aux djihadistes, parce que sinon, les djihadistes n'hésitent pas à tuer, n'hésitent pas à exécuter des chefs qui ne les suivraient pas. Donc je pense que le fait d'accepter, malgré soi, le gouvernement indirect djihadiste, c'est une obligation. Ça ne veut pas dire forcément les rejoindre. Alors les rejoindre, c'est un autre problème, c'est le problème des jeunes sans emploi. Donc les jeunes qui sont formés par l'école, qui n'en trouvent pas de travail et qui sont encore là, c'est eux qui sont recrutés, alors parfois par les djihadistes et qui les rejoignent. Ça c'est un autre problème, c'est aussi l'absence d'emploi des jeunes dans les zones rurales. C'est ça l'une des motivations qui fait que les djihadistes peuvent recruter des jeunes.
Fin de cette édition d'information, merci pour l'écoute. Je vous laisse en compagnie de Fadel Alou pour le forum du studio Kalangou sur les dépenses ostentatoires dans les cérémonies de mariage en milieu dandy, comment y remédier.
Bonsoir grande sœur. Enfin, aujourd'hui, je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même, tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends, grande sœur, apparemment, vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah, mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.